Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Un nouveau journal arrive sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h.
Airbus A330 Phoenix, qui est le premier livré à l'armée de l'air et qui a été configuré pour accueillir le kit Morphée, capable d'accueillir des patients lourds dans un état grave.
Il va survoler ce matin la place de la Concorde pour la cérémonie du 14 juillet. C'est l'A330 qui a transporté des malades du Covid. Grâce à Nathalie Chevance, vous pourrez monter à bord et ça vaut la peine. Nous rejoindrons ensuite Aude Leroy dans la tribune présidentielle de la place de la Concorde. Les derniers réglages sont en cours avant le début de la cérémonie. Quel plan de relance après la crise? Comment aider les jeunes qui arrivent sur le marché du travail? Réponse très attendue d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Marlène Schiappa en visite surprise à la rave party interdite dans la Nièvre. L'occasion de donner de bons conseils aux jeunes.
Les mesures barrières ne sont pas une option, même quand on fait la fête et surtout quand on fait la fête. Et donc mettre le masque, ça doit devenir un réflexe. C'est le message que nous sommes venus porter ici ensemble.
Et puis trop de chaleur et pas assez de pluie. La sécheresse est de plus en plus inquiétante, notamment en Saône-et-Loire, et les agriculteurs sont résignés.
Ça fait déjà la troisième année consécutive, alors bon, une vache n'est pas faite pour manger que du sec. Hein. Normalement, à cette époque, elle mange de l'herbe verte. D'année en année, je pense qu'il faudra s'habituer, ça sera tout le temps comme ça.
Votre invité juste après ce journal, Pierre.
14 juillet, dédié au personnel soignant, Dominique Mastelli est médecin psychiatre, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique Barin Grand Est. Il soigne les soignants et il nous en parle juste après ce journal. 8h02 sur Europe 1. Très bon 14 juillet à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zellani.
Un panache de fumée bleu-blanc-rouge dessiné par la patrouille de France dans le ciel de Paris. Ce sera l'image d'ouverture du défilé aérien. Ce matin, suivront notamment les Rafales et les Mirages 2000 dans le ciel. On pourra aussi voir passer l'A330 Phoenix, un avion ravitailleur reconfiguré pour le transport des malades pendant la crise. En exclusivité pour Europe 1, Nathalie Chevance a eu la chance de monter à bord. Allez, venez, on vous fait une petite place.
Dans le cockpit au-dessus des Champs-Élysées, la concentration est au maximum. Survol à 1100 pieds à basse altitude pour que le public puisse contempler cet hôpital volant commandé par le lieutenant-colonel Guillaume.
C'est une mission qui ne tolère pas l'imprécision. Beaucoup de trafic en l'air. On est proche du sol, donc il faut être assez rigoureux au niveau du respect des procédures et des timings. Sinon, on peut impacter la sécurité. Donc si on ne passe pas dans cette fenêtre-là, on n'est même pas censé défiler sur les champs. On est censé quitter le défilé.
Étape 150.
Et c'est dans cet avion que 36 patients ont été transférés pendant la crise Covid. 6 rotations pour désengorger notamment les hôpitaux de l'Est de la France dans un appareil totalement reconfiguré.
L'Airbus A330 Phoenix a été configuré pour accueillir le kit Morphée, capable d'accueillir des patients lourds dans un état grave. On veut montrer que l'armée de l'air est présente et ça resserre les liens armée-nation.
Un avion militaire transformé en hôpital avec 6 postes d'urgence pour les patients placés sous respiration artificielle. Une équipe médicale de 14 personnes mobilisées. Le lieutenant-colonel Eric a participé à l'une de ces missions Covid.
Le cargo est complètement désossé avec les armoires qui sont amenées à recevoir tout le matériel médical, médicaments, des frigos si jamais il y a besoin de transporter des pochettes de sang. On parle d'un hôpital volant, donc il est soumis aux conditions atmosphériques, aux turbulences. Et ça me demande de la part de l'équipage une étude fine des conditions météo et un pilotage le plus souple possible.
Mission exceptionnelle pour ces militaires, prêts à repartir en vol pour chercher d'autres malades en cas de deuxième vague Covid. À bord de l'A330 Phoenix, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et on l'a dit, ce sera donc un 14 juillet, vraiment pas comme les autres. Pour la première fois depuis 1945, le traditionnel défilé des armées sera remplacé par une cérémonie en format restreint.
Oui, cérémonie dédiée à tous ceux, militaires ou civils, qui se sont mobilisés pendant la crise. Aude Leroy, vous êtes aux premières loges en direct de la place de la Concorde, précisément dans la tribune présidentielle où vous assistez à la mise en place des troupes.
Oui, exactement. Je peux vous dire que ça fourmille encore, ça discute un peu. Il y en a qui descendent encore de leur car pour aller rejoindre leurs emplacements. Et au final, eh bien, il y aura 33 carrés de 49 militaires placés donc en arc de cercle face à la tribune présidentielle. Ça fait environ à peu près 2000 personnes pour ce défilé 2020. C'est moitié moins que d'habitude, crise du Covid oblige. Alors à ma gauche, eh bien, il y a les troupes à l'honneur, notamment le service de santé et le soutien. Et puis juste à côté, toutes des troupes des nations étrangères qui ont aidé la France pendant la crise du coronavirus. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg qui ont accueilli des patients français en réanimation et qui les ont soignés. Juste à côté, après, on passe aux écoles militaires traditionnellement, les pompiers, les policiers et puis évidemment l'armée de terre et les marins. Alors dans les tribunes, pas plus de 2500 invités au total, dont 1400 civils, des soignants, des instituteurs, des caissières ou encore des éboueurs, bref tous ceux qui étaient en première ligne pendant le pic de l'épidémie. C'est une façon de les remercier. D'ailleurs, ça finira par un tableau final avec 10 soignants civils qui vont déplier un immense drapeau bleu-blanc-rouge avec 20 soignants militaires. C'est une mise à l'honneur particulière. Mais avant, il y aura effectivement le passage des troupes en revue par le président de la République, le chef des armées. Un tableau d'hommage au général de Gaulle, dont on fête aujourd'hui les 130 ans de la naissance, les 80 ans de son appel et les 50 ans de sa mort. Deux chars de l'époque vont pour l'occasion défiler. Ce seront d'ailleurs les seuls cette année sur les pavés de la Concorde. Et puis dans les airs, une cinquantaine d'avions, une vingtaine d'hélicoptères, soit un tiers de moins que l'an dernier pour ce défilé 2020 si particulier.
Aude Leroy sur la place de la Concorde pour Europe 1.
Et après cette cérémonie, Emmanuel Macron va donc renouer avec la traditionnelle interview du 14 juillet que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1 dès 13h.
Le chef de l'État devrait s'exprimer pendant au moins 45 minutes et s'expliquer sur le programme des deux dernières années de son quinquennat. Il va notamment dévoiler un plan pour l'emploi des jeunes. 700 000 vont arriver sur le marché du travail dans un horizon très assombri. Diplômés ou pas, ces jeunes s'attendent à prendre de plein fouet l'effondrement des offres de recrutement. Olivier Samin.
C'était déjà difficile pour les non-diplômés. Ça va l'être tout autant pour les jeunes qui sortent des écoles ou de l'université. Mathieu Courtecuisse préside la branche conseil de la Fédération Syntec. Il est lui-même patron d'une société de conseil en management qui recrute chaque année 180 jeunes diplômés pour en faire des consultants juniors. Cette année, du fait du ralentissement de son activité, ce sera 15 recrues, pas plus. À la tête de son syndicat professionnel, il devine la situation peu enviable de ces jeunes diplômés qui vont arriver à la rentrée sur le marché du travail.
Ils vont se trouver en difficulté car très vite, la promotion d'après va sortir. Dès janvier, mars, on a les stagiaires de l'année d'après. Et ils vont se retrouver donc, ces stagiaires, en concurrence avec les jeunes diplômés de l'année d'avant. Et les entreprises vont plutôt arbitrer pour prendre des stagiaires que des CDI, car ils sont moins chers. On peut aussi les tester beaucoup plus longtemps avant de les titulariser en CDI.
Alors les jeunes diplômés de 2020 vont-ils être une génération sacrifiée? L'exemple de la génération 2010 nous le fait craindre. Une étude du CEREC parue l'année dernière montre que les jeunes de cette année-là, arrivés sur le marché du travail au plus fort de la crise financière, ont eu un parcours beaucoup plus heurté que leurs aînés, avec davantage de périodes de chômage, donc moins d'expérience professionnelle. Conséquence, 7 ans plus tard, ils étaient toujours pénalisés.
Olivier Samin,
Europe 1, 8h07.
L'OMS s'inquiète du trop grand nombre de pays qui prennent la mauvaise direction face à la pandémie. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que la situation s'aggrave encore.
La Californie a par exemple décidé de fermer à nouveau certains commerces. La Colombie reconfine 3,5 millions de personnes. En France, certains veulent faire la fête à tout prix, comme ces jeunes qui ont dansé nuit et jour à la rave party clandestine organisée depuis samedi dans la Nièvre. Surprise, tard hier soir, Yasmina Katou, ils ont vu arriver Marlène Schiappa, la ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.
Oui, entre 4000 et 5000 personnes s'étaient rassemblées pour danser en plein air. Masques et distances de sécurité n'étaient pas de la partie. Les images ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a poussé Marlène Schiappa à se rendre sur place. La ministre déléguée à la citoyenneté a remercié policiers, pompiers et bénévoles venus encadrer cette fête non autorisée. Marlène Schiappa en a profité pour faire une piqûre de rappel aux fêtards.
Le Covid circule toujours. Si nous ne voulons pas avoir de deuxième vague à la rentrée, les mesures barrières ne sont pas une option, même quand on fait la fête et surtout quand on fait la fête. Et donc mettre le masque, ça doit devenir un réflexe et c'est le message que nous sommes venus porter ici ensemble.
Fin de la rave party hier soir, la fête devait pourtant continuer jusqu'à aujourd'hui. Selon les organisateurs, les scènes ont été démontées. Certains participants ont campé à la Belle Étoile cette nuit sur le site. Tout se passe dans le calme ce matin, selon la préfecture. En continuité avec les décisions prises samedi, la préfète de la Nièvre avait choisi la manière douce pour tenter de contrôler la situation. Pas d'évacuation de force, mais distribution de masques et gel hydroalcoolique. Les participants ont tous reçu un bon pour se faire dépister gratuitement.
Yasmina Katou, les juges d'instruction retiennent finalement le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll, tué à 85 ans en 2018. Les deux suspects vont comparaître devant les assises. Et puis un père de famille de 40 ans arrêté la semaine dernière dans un village de Gironde. C'était l'un des 10 pédophiles les plus recherchés au monde. Il aurait géré des sites spécialisés et abusé de deux de ses enfants. Il est en détention provisoire.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Si tout le monde espère du soleil pour l'été, les agriculteurs de Saône-et-Loire rêvent de pluie. La sécheresse les inquiète de plus en plus. Reportage dans la suite de ce journal. À tout de suite.
Europe 1. Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Pas de canicule, mais pas de pluie non plus dans certaines régions. Pas une goutte n'est tombée depuis le début du mois. Une sécheresse qui, selon les prévisions les plus pessimistes, pourrait sévir jusqu'à l'automne.
Oui, en Saône-et-Loire, c'est même l'alerte rouge renforcée. Ça veut dire interdiction de remplir les piscines, de laver les voitures, d'arroser les plantes, mais aussi interdiction d'irriguer les champs. Pierre Herbulot est allé rencontrer des agriculteurs à Bresse-sur-Grône.
Jaune paille. Dans l'enclos, l'herbe d'habitude verte et grasse a grillé sous les assauts du soleil. Les creux où s'abreuvent normalement les vaches sont asséchés. Celles de Sébastien Philippon n'ont plus rien à boire ni à manger. L'agriculteur est obligé d'abandonner ses cultures pour les maintenir en vie.
Oui, y a des prés déjà où je mène déjà à manger. Puis là, je mène de l'eau dans mes prés. Là. C'est déjà la deuxième fois. Puis je pense que je vais faire ça tout l'été. Donc quand je fais ça, je fais pas autre chose. Alors c'est du temps, c'est de l'argent, c'est... Ça devient dramatique. Normalement, je devais rentrer ma paille et ça attendra demain ou après-demain. Il faut, de toute façon, autrement, pour laisser mes bêtes mourir de soif puis de faim. C'est le métier d'agriculteur.
Un métier de plus en plus difficile à cause du changement climatique. Dans l'exploitation voisine, Guillaume Potet commence à avoir l'habitude des sécheresses.
Ça fait déjà la troisième année consécutive. Alors, une vache n'est pas faite pour manger que du sec. Hein. Normalement, à cette époque, elle mange de l'herbe verte. Ah oui, elle est plus riche en cellulose. Enfin bon, donc, c'est le problème des étés secs et d'année en année, je pense qu'il faudra s'habituer, ça sera tout le temps comme ça.
Sur le terrain d'à côté, les cultures aussi souffrent du manque d'eau, en particulier le maïs. Sans forte pluie dans les tout prochains jours, la récolte en Saône-et-Loire risque d'être insignifiante. À Bresse-sur-Grône, Pierre Herbulot, Europe 1.
Allez, le football, et n'est-ce pas pour lui une saison à oublier? Antoine Griezmann, la star de l'équipe de France, vit un chemin de croix depuis son arrivée à Barcelone l'été dernier. Performance médiocre, difficulté d'intégration, le Français était même devenu remplaçant ces derniers temps.
Et pas de chance, alors qu'il semblait reprendre du poil de la bête, il s'est blessé samedi et va rater la fin de la saison en Liga. Il reviendra pour la Ligue des Champions, mais forcément, Christophe Lamar se pose déjà la question de son avenir.
Ça va mieux que vous ne le pensez. L'entourage d'Antoine Griezmann est formel. Le moral de l'attaquant barcelonais n'est pas atteint. Il va bien. La preuve, il veut rester à Barcelone. Plusieurs éléments plaident dans ce sens. D'abord, son entente avec Lionel Messi. L'Argentin est le patron du vestiaire et si ces deux-là ne seront jamais proches, leurs relations se sont normalisées depuis peu. Il y a ensuite ce qui se passe hors du terrain. Les dirigeants catalans l'ont reçu il y a une semaine. Discussion franche. Tout a été mis sur la table. Son rôle, son entente avec ses partenaires, ses performances. Surtout, Barcelone dit compter sur lui. Raison de plus pour rester, d'autant que son salaire et son prix sur le marché le rendent presque inabordable en ces temps de crise sanitaire. Griezmann perçoit près de 2 millions d'euros par mois. Son transfert coûterait au bas mot 100 millions d'euros. Peu de clubs peuvent se le permettre aujourd'hui. En attendant, le Français soigne sa blessure. Il ne veut pas prendre de risques. Et d'ajouter, il sera là pour la reprise de la Ligue des Champions dans un mois.
Et puis coup de chapeau au duo français du Real Madrid, Benzema et Mendy. Ils ont marqué les buts de la victoire hier soir face à Grenade.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Zélani.